Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes à la fin de la deuxième partie du chapitre 13 de Saint Jean. Je voudrais pouvoir aujourd'hui terminer ce chapitre 13, je pense. Donc sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église, des chapitres 11 à 15 de Saint Jean, nous en sommes à la page 21, en bas de la page. Donc nous commençons par les versets 12 à 20. Je vous lis le texte. Après que notre Seigneur leur eut lavé les pieds aux apôtres et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit « Savez-vous ce que je vous ai fait ?» Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné l'exemple afin que ce que je vous ai fait, vous le fassiez aussi. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Et si vous savez ces choses, vous serez heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange du pain avec moi lèvera son talon contre moi. Dès maintenant, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle sera arrivée, vous croyez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. On voit ici que notre Seigneur donc va laisser son cœur parler. C'est ce qu'on appelle le discours après la scène. Donc chapitre 13, 14, 15, 16 et 17 de Saint Jean, avant le début de la Passion. Donc notre Seigneur va ouvrir son cœur à ses apôtres, au moins en partie au début. Il va d'abord attendre le départ de Judas, qui va aller le livrer. Et une fois que Judas est parti, à ce moment-là, il va encore s'ouvrir davantage. Donc c'est une partie de l'évangile qui est beaucoup plus profonde. Notre Seigneur fait ici une allusion très nette à la Sainte Trinité. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est Dieu le Père, évidemment. Donc, il y a une union substantielle entre Dieu le Fils et Dieu le Père, même s'il y a une séparation des personnes, entre la personne du Père, qui est la première personne de la Sainte Trinité, et la personne du Fils, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc, dans le sens allégorique, on est à page 22, en haut de la page. C'est après avoir consommé l'œuvre de notre purification, notre rédemption par l'effusion de son sang, qu'il reprend ses vêtements en ressuscitant et en sortant du tombeau le troisième jour, revêtu de son corps doué d'immortalité. Et il s'assied de nouveau en montant au ciel, en prenant place à la droite de Dieu son Père, d'où il doit venir pour nous juger. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, d'après les Pères de l'Église, qui enlève ses vêtements pour laver les pieds de ses disciples, là c'est vraiment son humanité qui apparaît. Puis après avoir lavé les pieds de ses disciples, il va reprendre ses vêtements et c'est sa divinité qui est reprise, qui est revu de nouveau, en quelque sorte. C'est-à-dire les vêtements qu'il reprend représentent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un symbole de la résurrection et la sortie du tombeau le troisième jour, revêtu de son corps, doué d'immortalité. Donc notre Seigneur va ressusciter avec un corps glorieux, avec les privilèges des corps glorieux. Ici, les pères parlent de l'immortalité. Et il s'assied de nouveau en montant au ciel, en prenant place à la droite de Dieu son Père, d'où il doit juger, venir pour nous juger. Donc vous voyez, il y a une image de notre Seigneur Jésus-Christ qui se dépouille, en quelque sorte, qui semble se dépouiller de sa divinité. Donc il enlève son vêtement pour laver les pieds de ses disciples. On ne voit plus la divinité, on voit l'humilité. Il prend la fonction du serviteur en quelque sorte. Donc on ne voit plus que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, l'esclave parce qu'avant au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était les esclaves qui lavaient les pieds des invités. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va s'abaisser au niveau de l'esclave pour faire le travail de l'esclave. C'est le symbole de sa divinité qui semble se cacher pendant la Passion. Puis il va reprendre ses vêtements. C'est au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements, il leur dit : « Savez-vous ce que je vous ai fait ?» Donc il reprend ses vêtements. C'est-à-dire qu'il refait apparaître sa divinité qui semblait s'être cachée. Là, c'est la résurrection. Pendant la Passion, la divinité semble se cacher. Au contraire, au moment de la résurrection, la divinité, au contraire, elle apparaît, elle rayonne. Vous voyez ? Et donc, c'est le symbole, si vous voulez, de notre Seigneur Jésus-Christ qui ressuscite, qui prend, avec ce vêtement qu'il remet sur ses épaules, il prend un corps glorieux. De corps humain qu'il avait, non glorieux, il va prendre un corps glorieux. Et cela va préparer évidemment l'ascension, la montée au ciel, 40 jours après Pâques. Donc le symbole qui est derrière est le symbole du pardon des péchés. Confessons-nous mutuellement nos péchés, pardonnons-nous réciproquement nos fautes, prions pour les fautes les uns des autres et nous serons en quelque sorte mutuellement lavés les pieds. Donc lavant des pieds, le fait qu'on enlève la poussière de ses pieds, je vous ai déjà expliqué que d'après les pères, la poussière représente le péché. La boue représente le péché mortel, la poussière représente le péché véniel, donc qui est facilement enlevable. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ qui lave les pieds des apôtres représente le prêtre qui pardonne les péchés au confessionnal. Donc il faut se laver mutuellement les pieds avant de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, avant que d'instituer la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe, le sacerdoce, l'épiscopat, il rappelle à ses disciples la nécessité de l'humilité et de la pureté de cœur. Pour pouvoir s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, surtout le sacrement de la Sainte Eucharistie, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'humilité, bien sûr, mais il faut aussi la pureté de cœur, il faut l'état de grâce. Malheur à celui qui communie en état de péché mortel. Donc, ce lavement des pieds représente le sacrement de pénitence. On voit que Jésus commence d'abord par faire, puis par enseigner, plus par ses œuvres que par ses paroles. Saint Basile nous dit que le chef doit d'abord faire ce qu'il demande à ses sujets de faire et doit exceller en humilité comme il le fait en dignité. Pour ça que le pape est le serviteur des serviteurs de Dieu. C'était le titre du pape au Moyen-Âge. Vous voyez, c'est des choses que les gens modernes ont un peu de mal à comprendre. Le prêtre est un serviteur. J'ai eu plusieurs fois des discussions avec des gens qui ne comprenaient pas ça, qui ne comprenaient pas, par exemple, qu'aux retraites, je fasse le service à table moi-même. Et ça, j'y tiens beaucoup pour bien justement expliquer que le prêtre est un serviteur. Lorsqu'on faisait le banquet de l'enfant prodigue, pour ceux qui connaissent les exercices Saint-Ignace, après les confessions et la communion, le retour à la communion, on fait un banquet qu'on appelle le banquet de l'enfant prodigue, qui est une vieille tradition de Saint-Ignace. Et pendant la messe du matin, le prêtre explique la parabole de l'enfant prodigue, qui revient, et après avoir quitté la maison paternelle, le père va organiser pour son fils qui était perdu, qui est retrouvé, un banquet extraordinaire. Il va lui redonner l'anneau de famille, le revêtir de la robe propre des invités d'honneur, et lui rendre toute la dignité qu'il avait perdue par son départ. Quand j'étais directeur de maison de retraite à New York, j'insistais beaucoup, parce que c'était moi le supérieur, j'insistais beaucoup pour que tous mes prêtres qui prêchaient avec moi, les 3 ou 4 en général, viennent servir à table pour le banquet de l'enfant prodigue. Déjà, je faisais moi-même le service à table quand je pouvais, pendant le cours de la retraite, pendant les repas, mais je demandais à ce que mes prêtres viennent, on mettait tous un tablier blanc sur nos soutanes et on faisait le service à table. Et c'est ce qui frappait le plus les gens. Quand je posais la question à la fin de la retraite, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les exercices? Ils répondaient toujours à la même question, la même chose, le service à table fait par les prêtres. Et ça, j'ai gardé ça quand je prêche les exercices ici, je suis tout seul, eh bien, je tiens à faire le service à table moi-même. Et ça choque certaines personnes qui ne comprennent pas. Ils disent, Monsieur l'abbé, ce n'est pas à vous de faire le service, donc ils se lèvent spontanément pour venir m'aider. Je dis, non, vous restez à table, c'est moi qui vous sers, vous êtes mes hôtes, je dois faire le service parce que je suis le prêtre, et le prêtre est le serviteur. Vous voyez? Donc, le prêtre doit exceller en humilité comme il le fait en dignité. Et plus le prêtre accepte de s'humilier, plus il a le droit d'exercer sa dignité. Et les fidèles vont accepter davantage l'autorité du prêtre s'ils voient le prêtre exceller d'abord en humilité. Donc, le Christ savait que les apôtres se querelleraient bientôt dans leur orgueil pour savoir qui d'entre eux était le plus grand. Il plaça donc devant eux cet exemple d'humilité pour casser, supprimer leur ambition. Mais évidemment, si ils voient leur maître, notre Seigneur Jésus-Christ, se ceindre d'une serviette, se mettre à genoux et laver par lui-même les pieds des disciples, eh bien, ils vont comprendre la nécessité de la vertu d'humilité. Vous savez que le prêtre refait ce même geste le jeudi saint au soir. Dans la cérémonie du jeudi saint, il y a le lavement des pieds qu'on appelle le mandatum. Le prêtre refait la même chose, il va laver les pieds quand on le peut, il lave les pieds de 12 hommes. Moi, j'avoue que j'ai pratiquement jamais réussi à avoir les 12 hommes pour les lavements des pieds du jeudi saint, il en manque toujours quelques-uns, mais il lave au moins les pieds de quelques hommes. Après avoir lavé le pied droit de chaque homme qui représente les apôtres, le prêtre va baiser chaque pied, justement pour bien montrer l'importance de la vertu d'humilité. On monte en dignité, plus il faut que les soubassements, si vous voulez, de l'humilité soient importants. Je prends toujours le même exemple, qui est facile à comprendre. Si vous voulez bâtir une maison de 10 étages, il faut que les fondations soient très profondes. Au contraire, si vous voulez bâtir une petite bicoque pour mettre vos outils de jardin, vous n'avez pas besoin de mettre des fondations profondes. Donc, les fondations représente la vertu d'humilité. Et plus je monte haut, plus il faut que les fondations soient profondes. Donc on voit bien ici avec notre Seigneur Jésus-Christ qui, tout en étant Dieu, accepte de s'humilier. Vous voyez, on a l'impression qu'il met de côté sa divinité. En fait, il est toujours Dieu. Attention, c'est un grand mystère. Même quand il lave les pieds des disciples, il est Dieu. Donc il lave les pieds de ses propres créatures. De même que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix le vendredi saint, avec des souffrances épouvantables, il a toujours la vision béatifique. Ici, les pères citent le psaume 40. Il lèvera son talon contre moi, il lèvera contre moi la semelle de sa chaussure, il essaiera de me tromper, de me faire trébucher, de me ruiner, pour me faire tomber entre les mains des juifs et me conduire à ma croix et à la mort. Si vous voulez, là. La chaussure, si vous voulez, qui écrase la poussière, qui écrase le sol, et aussi le symbole, si vous voulez, du monde moderne qui cherche à écraser notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, David, c'est le roi David, en fait, qui avait écrit ce psaume 40 et qui parlait littéralement d'Achitophel, qu'il avait trahi en faveur de son fils Absalom. Mais mystiquement, il s'agit de Judas qui trahit le Christ comme Achitophel trahit David. Pourquoi? Parce que David, le roi David, 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, est un symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est toujours fait, s'est dit être fils de David, donc de la famille de David. Il en était très fier. Eh bien, David représente notre Seigneur Jésus-Christ et Achitophel qui a trahi David représente Judas qui trahit notre Seigneur Jésus-Christ. On peut même aller plus loin que ça. Oui, encore une fois, il faut faire attention de concrétiser la passion, pas simplement dire c'est Judas qui a trahi notre Seigneur Jésus-Christ. On entend ça beaucoup trop souvent, je vous l'ai très souvent dit, parce que c'est une chose qui est très importante à comprendre pour moi. J'en ai un petit peu assez de voir, d'entendre parfois des fidèles de tradition qui me disent, ah, mais la passion, c'est les Juifs. Bon, c'est vrai que ce sont les Juifs qui ont demandé la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il faut pas oublier qu'à chaque fois que je commets un péché mortel, c'est moi qui crucifie notre Seigneur, hein. Et je prends les fouets des bourreaux pour frapper moi-même notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends le marteau pour taper à la place du bourreau, en prétendant que le bourreau fait passer bien son travail. Je prends le marteau moi-même et j'enfonce le clou dans les jointures de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses pieds, dans ses mains. C'est moi qui ouvre le côté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi qui couvre la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, la couronne d'épines, chaque fois que je commets une faute grave. Et encore une fois, pas oublier, je m'excuse d'insister là-dessus, mais ça me semble très important à comprendre, que notre Seigneur Jésus-Christ souffre beaucoup plus du péché des catholiques que du péché des juifs. Donc il y a là un sens mystique très fort. Avançons à la page 22 et 23, les versets 21 à 30. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit. Il fit cette déclaration, il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient donc les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Mais l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe et lui dit, quel est celui dont il parle? Ses disciples s'étant penchés alors sur le sein de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Et Jésus répondit, c'est celui à qui je présenterai du pain trempé. Ayant trempé du pain, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Et quand il eut pris cette bouchée, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, ce que vous faites, faites-le au plus tôt. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus avait voulu lui dire, achetez ce qui nous est nécessaire pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant donc pris la sept bouchées, sortit aussitôt, et il était nuit. Donc dans ce passage, il y a des choses très importantes. D'abord la question, le problème que notre Seigneur Jésus-Christ expose, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Bien cette question, mes bien chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ nous la pose tous les matins. Tous les matins, il me pose cette question, mon ami, est-ce que tu vas me trahir aujourd'hui? Et il faut vraiment tous les matins faire cette prière de Sainte Philippe Néri, Seigneur, gardez votre enfant entre vos bras, entre vos doigts, parce que sans votre grâce, sans votre aide surnaturelle, d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire juif ou mahométan. C'est ce que disait Saint Philippe Néri tous les matins. Eh bien, je vous l'ai dit, l'un de vous me trahira. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été trahi par n'importe qui, il a été trahi par un de ses apôtres. Même pas par un de ses disciples, un de ses apôtres directement, choisi directement par lui. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui avait choisi lui-même les 12 apôtres. Et il avait donné à ses apôtres le don des miracles. Donc Judas a fait des miracles. Parfois, on a des fidèles qui réagissent quand on dit ça. Judas a fait des miracles. Ah, c'est pas possible, Judas, t'es un traître. T'es un traître, mais c'est un apôtre. Et donc, comme apôtre, il avait le don des miracles. Aussi, donc il faut vraiment se poser cette question. Si Judas a trahi, est-ce que je ne suis pas capable de faire la même chose? Donc, c'est une question qui s'adresse à moi. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Est-ce que je suis capable de trahir notre Seigneur? Si je suis capable de commettre un péché mortel, je suis capable de trahir notre Seigneur. Notre péché mortel, c'est quoi? C'est une trahison de notre Seigneur, c'est rien d'autre. Vous voyez, donc il faut vraiment méditer ces choses-là. On verra un peu plus loin que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que disent les pères, a vraisemblablement donné la première communion à Judas, a ordonné Judas prêtre et l'a consacré évêque. Donc il a été. Notre Seigneur a été trahi non seulement par un de ses disciples, non seulement par un de ses apôtres, mais il a été trahi aussi par un de ses prêtres et un de ses évêques. Et un de ses prêtres et évêques fraîchement ordonnés et consacrés quelques heures auparavant, même pas quelques minutes auparavant. Donc Judas va recevoir la Sainte Communion, va être ordonné prêtre, va être consacré évêque, et donc va communier, va assister à la première messe de notre Seigneur Jésus-Christ, va être ordonné prêtre, consacré évêque, en état de péché mortel, sacrilège épouvantable. Et là, il faut vraiment méditer la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, il aurait mieux fallu pour cet homme qui ne fut point né. Et qu'en est-il de moi, mes bien chers frères? Si Judas a trahi, est-ce que je ne suis pas capable de faire la même chose? Le deuxième point qui me semble important, on va y revenir, verset 30. Judas ayant donc pris cette bouchée, sortit aussitôt, il était nuit. Alors il y a une controverse entre les pères pour savoir si Judas avait déjà été ordonné prêtre à ce moment-là et consacré évêque, mais il semble que oui. Il était nuit, cette nuit dans laquelle Judas s'enfonce représente évidemment la nuit du péché. La nuit du péché, c'est-à-dire que l'âme de Judas est devenue noire, noire comme un four. Et c'est ce qui se passe dans notre âme quand je commets une faute grave. Est-ce que je réagis et que je réalise lorsque je commets un péché grave, ce qui se passe dans mon âme? Qu'est-ce qui se passe dans l'âme d'une personne qui commet un péché mortel? Vous voyez, autant une âme à l'état de grâce doit être quelque chose d'extraordinairement beau, autant une âme à l'état de péché mortel, quelque chose d'extrêmement laid, sale, dégoûtant. Mais pourtant, cette âme a été rachetée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort simplement pour les saints, il est mort aussi pour tous les pécheurs. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères. On est page 23. Page 23 et 24, il y a pas mal de choses sur ces passages-là. Je vais vous donner un petit peu un résumé de ce que disent les pères. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de tout dire. Hein. Je conseille beaucoup à ceux qui ont du temps. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je me permets de me répéter. Excusez-moi de me répéter souvent, mais c'est en répétant les choses que ça finit par rentrer. Je vous conseille beaucoup pour tous ceux qui ont le temps. Tous ceux qui sont en retraite, par exemple, qui ont un petit peu de temps, qui écoutent ces cours, n'hésitez pas à vous procurer la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin et à lire l'ensemble des commentaires de saint Thomas d'Aquin. Il y a beaucoup de choses que saint Thomas explique, pas directement, indirectement, parce que dans la chaîne d'or, il n'y a pas un seul mot de saint Thomas d'Aquin. Hein. Tout le texte de la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, il y a à peu près une dizaine de volumes. Tous les textes de cette chaîne d'or sont les textes des pères. Saint Thomas ne s'est même pas donné la peine de faire une liaison entre les différentes citations des pères. Il cite uniquement les pères. Il s'efface complètement devant les pères de l'Église. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères. Donc, on est en page 23. Ce repos que notre Seigneur Jésus-Christ prend. Non, pardon, que Saint Jean prend sur le sein, sur la poitrine de Jésus, n'est pas seulement la preuve de l'amour du Sauveur pour lui, mais le présage de ce qui devait arriver. C'est-à-dire que Jean devait puiser sur la poitrine de Jésus cette voix qui devait retentir et qu'aucun des siècles précédents n'avait entendue. Saint Jean avait un titre de noblesse extraordinaire. Ça semble presque étonnant dans l'Évangile. Quand Saint Jean parle de lui-même, il ne donne pas son nom, il dit l'apôtre que Jésus aimait. On pourrait, si on ne fait pas attention, presque considérer ça comme de l'orgueil. Quel orgueil de se prétendre aimé de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre que Jésus aimait. Comme si Saint Jean disait j'étais l'apôtre que Jésus aimait, sous-entendu les autres apôtres étaient moins aimés que moi par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que veut dire Saint Jean. Mais notre Seigneur Jésus-Christ avait un amour tout particulier pour Saint Jean. On voit très bien, je vous l'ai tous souvent dit, il faut bien comprendre ça, qu'il n'y a pas d'égalité devant Dieu. Donc l'amour que Dieu a que Jésus avait pour ses disciples est différent pour chaque disciple, pour chaque apôtre. Il aimait tous ses apôtres, mais il y en a certains qu'il aimait davantage. Je vous l'ai déjà dit, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean. Saint Pierre deviendra le premier pape. Saint Jacques sera le premier martyr évêque. Apôtre a donné sa vie pour notre Seigneur et Saint Jean, parce que Saint Jean était l'unique apôtre vierge. Voilà pourquoi il a ce titre de noblesse extraordinaire, l'apôtre que Jésus aimait. J'aime beaucoup cette phrase des pères. Saint Jean devait puiser sur la poitrine de Jésus cette voix qui devait retentir et qu'aucun des siècles précédents n'avait entendue. C'est vrai que Saint Jean a vécu beaucoup plus long, plus longtemps que les autres. Saint Pierre est mort en 67. Alors que Saint Jean, au contraire, est mort à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle. Il est quand même considéré comme martyr. Il est quand même considéré comme martyr parce que il devait mourir, martyr, et le bon Dieu fait un miracle pour qu'il ne meure pas, ne mourût point. Il était à Rome, il a été pris par les Juifs à Rome et jeté dans un énorme chaudron d'huile bouillante. Et miraculeusement, il s'en est sorti vivant. Non seulement il s'en est sorti vivant, mais le bréviaire nous dit qu'il est sorti de cette opération plus jeune qu'il n'était rentré dans le chaudron d'huile bouillante. Du coup, les Juifs n'ont pas osé le tuer, ils l'ont envoyé en exil. Et il va mourir à la fin du 1er siècle ou à la fin du 2e siècle. Il va avoir le temps, donc, de. Il avait une gloire extraordinaire parce qu'il était le dernier apôtre qu'avait nommé notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez les premiers chrétiens qui n'avaient pas pu connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ est mort en 33. Imaginez les premiers chrétiens qui vivaient autour des années 50, 60, 70, 80. À ce moment-là, autour des années 70, pratiquement tous les apôtres, ou presque, étaient morts, sauf Saint Jean. Saint Jean va vivre beaucoup plus longtemps que les autres. Il va avoir le temps de transmettre, c'est lui qui a écrit l'évangile de Saint Jean, les épîtres de Saint Jean, il va avoir le temps de transmettre le dépôt de la foi, à tel point que l'Église enseigne que le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Vous voyez? Comme si Saint Jean était le point d'orgue final de la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut méditer sur Saint Jean c'est au verset 23, l'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Vous voyez? Et ce sein est en effet la figure d'un mystère caché. Le sein de la poitrine est comme la source secrète de la sagesse. Pour ça que Saint Jean est représenté par l'aigle. Je vous l'ai déjà dit, parce que l'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut. Il vole au-dessus des nuages, donc il a une vue beaucoup plus grande. Donc la théologie de Saint Jean est beaucoup plus élevée dans l'évangile de Saint Jean que dans les autres évangiles. Voilà pourquoi les modernistes de tout poil ont toujours essayé de nier que Saint Jean fût l'auteur des évangiles, de l'évangile de Saint Jean, et prétendent que l'évangile de Saint Jean a été écrit beaucoup plus tard. Plus tardivement, parce que ce n'était pas possible qu'à la fin du 1er siècle, il y ait déjà une telle science théologique dans l'intelligence de Saint Jean. Mais ils oublient complètement, ces modernistes, que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui inspire Saint Jean. C'est Dieu qui écrit derrière. Donc, Saint Jean, l'aigle de Saint Jean, pardon, est le symbole de cette sagesse, le don de sagesse qui dirige tous les autres dons du Saint-Esprit, certainement le don dont on a le plus besoin aujourd'hui. N'oublions pas que pour avoir ce don de sagesse, il faut commencer par avoir le don de crainte de Dieu, hein, qui est le début de la sagesse. Alors, Jésus répond à Saint Jean, voilà, je vais présenter du pain trempé à celui qui va me trahir. Mais on voit très bien que Saint Jean ne va pas aller expliquer à Saint Pierre qui va le trahir. Donc Saint Jean seul a entendu cette remarque de notre Seigneur. C'est celui à qui je présenterai le pain trempé qui va me trahir. Et donc il prend du pain, le trempe dans la sauce et le donne à Judas. Et seul Saint Jean a compris ce que faisait notre Seigneur, ce que voulait dire notre Seigneur. Mais les autres qui étaient un peu plus éloignés n'ont pas entendu la remarque de notre Seigneur, qui donc ne savent pas. Et le bon Dieu ne va pas permettre que Saint Jean révélât aux autres apôtres qui allaient le trahir. Saint Jean le seul qui le savait. Par ce pain trempé, peut-être voulait-il désigner l'hypocrisie du traître disciple, car tout ce qui est trempé n'est point pour cela purifié. Et quelquefois, une chose est souillée par cela seul qu'elle est trempée. Si au contraire, ce morceau de pain trempé est le symbole d'une grâce particulière, l'ingratitude de Judas, après le nouveau bienfait, rend plus juste encore sa réprobation. Rappelez-vous la phrase de notre Seigneur, il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. Alors, c'est encore une fois un peu un mystère de savoir exactement ce que voulait dire ce pain trempé. Là, il semble, d'après certains pères de l'Église, que cela représente la souillure de la souillure de l'âme de Judas. C'est-à-dire, le pain n'est pas du pain propre, mais du pain trempé dans la sauce. Donc, mélangé aux choses du monde, l'esprit du monde est dans l'âme de Judas. Remarquez, une remarque d'Origène, que Satan n'était pas tout d'abord entré dans le cœur de Judas. Il lui avait seulement suggéré la pensée de trahir son maître. Et ce ne fut qu'après ce morceau qu'il entra dans son âme. Prenons donc bien garde que le démon ne fasse pénétrer dans notre âme quelques-uns de ses traits enflammés, car s'il y réussit, il redouble ses efforts pour entrer lui-même. N'oubliez pas que notre Seigneur nous a prévenu que lorsqu'un démon sort d'une âme, pour une bonne confession par exemple, il va essayer d'y revenir. Et s'il ne peut pas y revenir, parce qu'il voit que cette âme est toute ornée de la grâce sanctifiante, parce qu'après une bonne confession, on retrouve l'état de grâce, il va chercher sept démons pires que lui. Et donc, s'il arrive à revenir dans l'âme, l'état de cette âme va être pire qu'avant. Donc, il faut faire très attention à ça, ne pas se rappeler, ne pas oublier justement que le démon, une fois qu'il a quitté une âme, est furieux de cette humiliation, il va essayer de revenir. Et si je laisse de nouveau le démon rentrer dans mon âme après une conversion, mon état va être pire qu'avant, pire que tout. Donc, d'autres pères disent que Satan entra en Judas, non plus comme pour tenter un homme qui lui fut étranger, mais pour posséder plus pleinement celui qui lui appartenait déjà. Donc, si vous voulez, Judas avait déjà ouvert sa porte à la trahison. La trahison n'avait pas encore été consommée, mais il était déjà allé voir les princes des prêtres pour organiser la trahison et il allait se faire payer pour cela. Saint Jean Chrysostome, tant que Judas fait partie du corps des apôtres, le démon n'osait s'emparer entièrement de lui, se contentait de l'attaquer extérieurement. Mais lorsqu'il lui fait connaître et qu'il lui séparait des autres disciples, il se trouva plus libre pour se saisir de sa personne. C'est très intéressant comme remarque. Dans la nature, on voit très bien, par exemple, quand des loups attaquent un troupeau, dans le Grand Nord, attaquent un troupeau de caribous, par exemple, ils savent très bien que si tous les caribous sont ensemble en une seule masse, le loup peut rien faire parce qu'il va prendre un coup de sabot. Donc, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Les loups vont chasser en meute pour essayer de séparer un petit caribou, un bébé caribou, donc un jeune caribou, de sa mère. Parce qu'évidemment, les caribous accélèrent le rythme de leur marche à cause des loups. Et du coup, les petits ont plus de mal à suivre. Et si un petit est séparé du troupeau, alors à ce moment-là, les loups peuvent se jeter sur lui. Ils font la même chose avec les bisons. Pour les bisons, donc, vont se regrouper en masse compacte avec tous les petits à l'intérieur. Et ils vont faire une espèce de comme une cuirasse de protection autour des petits et en présentant leurs cornes et leur poids énorme pour lutter contre les loups. Et si un petit est séparé de cette carapace de protection, et il va mourir mangé. Mais c'est la même chose ici avec Judas. Dès que Judas est séparé du corps des apôtres, il va être mangé tout cru par le démon. Satan entra en lui, dit saint Augustin, dans ce sens qu'il prit complètement possession de celui qui lui appartenait déjà. Car il était déjà dans Judas lorsque ce perfide disciple convint avec les Juifs du prix de sa trahison, comme saint Luc le dit clairement. Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, l'un des 12, et il s'en alla conférer avec les princes, les prêtres et les officiers du temple sur les moyens de le leur livrer. Cependant, attention, n'oublions pas que si Judas avait demandé pardon, comme saint Pierre a demandé pardon après sa trahison, notre Seigneur aurait pardonné Judas comme il a pardonné à Saint-Pierre, et nous aurions un Saint-Judas aujourd'hui. De la même façon que si le mauvais larron avait fait la même chose que le bon larron et avait dit aussi à notre Seigneur, Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume, avait fait un acte de foi, d'espérance et de charité, un acte de charité parfaite, et bien on aurait aujourd'hui un Saint-Gestas. Au lieu d'avoir simplement un Saint-Dismas, le bon larron, on aurait aussi le mauvais larron qui serait canonisé. Donc il était donc au pouvoir de Judas lorsqu'il vint se mettre à table avec Jésus, mais après qu'il eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Donc Satan entre en lui, mais notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit très bien, respecte la volonté de Judas. Notre Seigneur a pu faire un miracle pour empêcher le démon d'approcher de ses disciples, il aurait pu permettre que ses apôtres soient ne puissent pas pécher, soient impeccables sur le plan moral. Il aurait pu permettre ça. Il aurait pu, pour la protection des apôtres, permettre que ces apôtres ne puissent pas pécher, ne puissent pas l'offenser. Vous voyez ? On voit aussi ça chez le pape. Le pape est infaillible quand il parle sur la foi et les mœurs, comme pape avec l'intention d'obliger toute l'Église. Mais cependant, le pape n'est pas impeccable. C'est pour cela qu'il y a... le pape a besoin de se confesser comme tout le monde. Note d'origine. Il était juste, à mon avis, dit-il, qu'après que ce morceau de pain lui fut présenté, une faute d'orthographe qu'il faut que je corrige, il perdit le bien dont il était indigne et qu'il croyait posséder, qu'ainsi dépouillé de ce bien, le démon put entrer plus facilement dans son âme. On peut dire encore, avec autant de raison, que de même que celui qui mange indignement le pain du Seigneur ou boit indignement son calice, le mange et le boit pour sa condamnation. Ainsi Jésus donna ce pain aux uns pour leur salut et à Judas pour sa perte, en sorte que Satan entra en lui aussitôt qu'il l'eut reçu. Voyez donc, il ne faut pas oublier ce texte terrible de saint Paul. Celui qui boit et mange le corps de son sauveur indignement, boit et mange sa propre condamnation. Ici, saint Paul fait évidemment allusion aux communions sacrilèges. Il ne faut pas oublier que la première communion de Judas fut une communion sacrilège. Alors pourquoi, c'est une question qu'on peut tous se poser, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il permis que la première communion de Judas fût une communion sacrilège ? Une leçon pour nous. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il permis que tous les apôtres, sans aucune exception, se sauvent comme des lapins au soir du jeudi saint? Il n'y en a pas un qui reste. Hein. Alors tous l'abandonnèrent, dit le texte sacré. Donc cette nuit extérieure et sensible était, disaient les pères, la figure des ténèbres qui s'étendait sur l'âme de Judas. Alors, si c'est arrivé à Judas, eh bien, chers frères, n'oublions pas que ça peut aussi nous arriver à nous. Hein. Nous aussi, on est parfaitement capables de perdre notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait formé Judas lui-même, si Judas, qui avait reçu toutes les grâces, le don des miracles et toutes les grâces que les apôtres avaient reçues, a trahi son maître, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire moi-même ? Je ne suis pas plus doué que Judas. Note de Saint Grégoire, en bas de la page 23. La circonstance du temps fait ressortir la nature et la fin de l'action. L'évangile nous fait voir Judas accomplissant dans la nuit son œuvre de trahison parce qu'il ne devait jamais en concevoir de repentir. Il était nuit, c'est le verset 30. Judas, ayant donc pris cette bouchée, sortit aussitôt, il était nuit. Donc la nuit de l'âme de Judas, c'est sa propre nuit. C'est lui qui a éteint le commutateur électrique, si vous voulez. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne sa grâce. Et la grâce est comme une lumière extraordinaire dans une âme. Mais il faut bien comprendre que cette lumière qui est dans l'âme, nous avons le pouvoir de l'éteindre. C'est ça qui est terrible. C'est comme une comparaison très moderne, un commutateur électrique. Je suis dans la nuit noire à l'extérieur, mais dans ma chambre, dans mon âme, il y a une lumière magnifique. Mais là, je peux, dans ma folie, éteindre la lumière. Appuyer sur la touche du commutateur et me retrouver dans l'obscurité la plus complète. Puis une fois qu'on est dans l'obscurité la plus complète, si on se déplace un peu dans l'obscurité, on ne trouve plus le commutateur, sauf si vous connaissez très bien votre chambre. Donc une âme qui s'éteint par le péché mortel, quand je commets un péché mortel, l'âme perd immédiatement sa lumière. À ce moment-là, je ne trouve plus le commutateur électrique et je ne peux plus la rallumer sans une grâce toute particulière du bon Dieu. Attention à ça, il ne faut pas oublier ça, mes bien chers frères. Quand je commets un péché mortel, je perds la lumière du bon Dieu. Mais pour pouvoir retrouver cette lumière du bon Dieu, il faut que je puisse me confesser. Pour pouvoir me confesser après avoir commis un péché mortel, il faut encore que je puisse recevoir une lumière particulière du bon Dieu. Est-ce que je suis certain de pouvoir recevoir cette lumière du bon Dieu ? Est-ce que je suis certain, après avoir perdu la grâce sanctifiante par un péché mortel, est-ce que je suis sûr que je vais recevoir la grâce de la contrition ? Regardez Judas, là c'est une leçon pour nous. Judas n'a pas retrouvé cette lumière. Il l'a perdue et malheureusement, il ne l'a jamais retrouvée. Donc, Judas ne devait jamais concevoir de repentir pour ce qu'il a fait. C'est terrible, c'est comme ça. Passons à la page 24. Pierre interroge Jésus. Pierre interroge Jésus non pas qu'il craigne d'être lui-même ce traître, mais par zèle, afin qu'il puisse empêcher un tel crime comme au jardin des Oliviers, il voulut empêcher la capture du Christ en coupant l'oreille droite de Malchus. Mais il ne faut pas. Dans d'autres évangiles, on a vu que quand notre Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. C'est verset 21. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit. Il fit cette déclaration, il dit en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Dans d'autres évangiles, les apôtres se sont tous regardés les uns les autres. Ils sont regardés eux-mêmes d'abord. Et ils ont tous dit, est-ce moi, Seigneur ? Vous voyez, cette parole, je vous l'ai déjà dit, s'adresse à chacun d'entre nous. L'un de vous me trahira. Je peux trahir notre Seigneur Jésus-Christ d'ici ce soir. Je peux perdre la grâce sanctifiante d'ici ce soir. J'ai fait aujourd'hui, c'est dimanche, j'ai fait une bonne confession, une bonne communion. Je suis capable d'être en état de péché mortel dans 5 minutes sans la grâce du bon Dieu. Si Judas a trahi, je suis capable de trahir. Est-ce que je vais trahir ? Est-ce moi, Seigneur ? J'admire d'abord, j'avoue, à chaque fois que je lis ce passage, j'admire la bonne volonté des apôtres. Peut-être que moi j'aurais dit, quand notre Seigneur a eu déclaré « l'un de vous me trahira », peut-être que j'aurais pensé « c'est Judas, à tous les coups c'est Judas, mais oui c'est lui qui a la bourse, d'abord c'est un voleur, il garde l'argent dans la bourse et il garde l'argent qui devrait être dans la bourse, dans sa bourse personnelle, il vole, c'est un voleur, c'est lui qui trahit à tous les coups ». Non, est-ce moi Seigneur ? C'est la question qu'il faut nous poser. Et on voit, on a déjà vu dans d'autres commentaires des autres évangiles, comment notre Seigneur Jésus-Christ va tout faire pour convertir Judas, mais il respecte la volonté de Judas, il va faire 2 miracles pour convertir Judas. On verra ça au moment du jardin des Oliviers, au moment de l'agonie, après l'agonie au jardin des Oliviers, quand Judas va arriver avec une foule nombreuse pour faire arrêter notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur va encore faire 2 miracles sous le nez de Judas pour essayer de le convertir. Quand le premier miracle, c'est quand notre Seigneur a demandé qui cherchez-vous, il va répondre Jésus de Nazareth, c'est moi. Et quand tu lui dis c'est moi, toute la foule nombreuse, peut-être 200, 300 personnes, on ne sait pas, tout le monde tombe paralysé, la face contre terre pendant plusieurs minutes. Ça, c'est un miracle. Pourquoi il a fait ce miracle ? Pour Judas, pour essayer d'ouvrir le cœur de Judas. Et puis ensuite, l'allusion ici des pères de l'Église, quand Saint-Pierre coupe l'oreille droite de Malchus, qui est un serviteur du grand prêtre, et que le pauvre serviteur est en train de hurler de douleur, qu'est-ce que fait notre Seigneur ? Sous le nez de Judas, il va prendre l'oreille qui vient d'être coupée, qui est souillée par le sable, il va la nettoyer, la remettre en place, chirurgie esthétique instantanée. Pourquoi ce deuxième miracle ? Pour convertir le cœur de Judas ? Et on voit que malgré ces 2 miracles extraordinaires, flagrants, que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, fait pour ouvrir le cœur de Judas, le cœur de Judas ne s'ouvre pas. Ça fait réfléchir, ça fait sérieusement réfléchir. Si malgré ces 2 miracles extraordinaires, Judas ne s'est pas converti, qu'en serait-il de moi, mes bien chers frères ? Qu'en serait-il de chacun d'entre nous ? Si Judas ne s'est pas converti, est-ce que je suis sûr de me convertir, moi ? Ça, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Continuons les commentaires des pères, page 24. Saint Augustin dit que le pain trempé dénote la fausseté et la fraude qui était dans l'âme de Judas. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Vous, Judas, compagnon de ma table, vous n'avez pas honte de me trahir ? Eh bien, c'est aussi une fraise pour moi. Est-ce que je n'ai pas honte de trahir notre Seigneur ? Moi aussi, j'ai reçu beaucoup de grâce. J'ai reçu pour moi la grâce du sacerdoce, on a tous reçu la grâce du baptême, pour tous ceux qui m'écoutent en général. Vous avez reçu la grâce du sacrement de confirmation, la grâce de la confession, la grâce de la sainte communion. On a reçu ces grâces tous, beaucoup, à de nombreuses reprises, et pourtant, j'ai trahi notre Seigneur. Alors voyons un petit peu avec les pères pourquoi le démon a pu entrer dans l'âme de Judas. Et les pères de l'Église donnent 3 raisons. 3 raisons. D'abord à cause de son ingratitude. Car le Christ lui avait confié tous les offices de l'amour et malgré cela, Judas accepta d'être totalement possédé par le démon. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ avait nommé Judas apôtre. Donc plus on a reçu, plus il faut donner. Plus j'ai reçu, plus il faut transmettre. Plus j'ai reçu, plus j'ai le devoir de connaître, de comprendre ce que j'ai reçu pour pouvoir l'aimer, le transférer, le transmettre aux autres. Vous voyez ? Deuxièmement, le démon savait par les paroles du Seigneur que Judas avait était enfoncé dans sa mauvaise volonté. Judas, notre Seigneur va respecter la mauvaise volonté de Judas. Judas lui-même comprit qu'il s'était séparé des apôtres et de leur maître, devenu endurci par le mal, par désespoir, il se livra au démon et sortit incapable de supporter les regards du Seigneur et des disciples, ou peut-être par crainte d'être mis en pièces par ces derniers. Oui. Donc, ça, il faut bien comprendre ça. Le péché de Judas, c'est le péché de désespoir. Désespoir de son salut, n'oubliez pas que c'est un des péchés contre le Saint-Esprit. Le crime de Judas, c'est de ne pas avoir cru son péché pardonnable. Si Judas s'était jeté aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, il aurait été pardonné. Judas a dit, je vous l'ai déjà souvent expliqué, mon péché est trop grand pour être pardonné. Dieu n'est plus capable de pardonner mon péché parce que Dieu n'est pas assez puissant pour pardonner mon péché. Pourquoi? Parce que, en disant Dieu n'est pas assez puissant pour pardonner mon péché, c'est une injure souveraine à Dieu, c'était d'insinuer que Dieu n'était, que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas Dieu. Puisqu'il n'est pas suffisamment puissant pour pardonner mon péché, ça veut dire que il n'est pas capable, n'étant pas capable de pardonner ce péché, c'est qu'il n'est pas Dieu. Vous voyez? Donc il faut méditer là-dessus. Judas trahit notre Seigneur par ingratitude, à cause de sa mauvaise volonté et par désespoir. On voit avec Judas que celui qui abandonne le Christ sera abandonné par lui. Ce n'est pas Dieu qui commence par nous abandonner, c'est nous qui abandonnons le bon Dieu. Donc quand je suis abandonné, quand le Christ est abandonné par moi, donc là il y a encore une faute d'orthographe importante, on voit avec Judas que celui qui abandonne le Christ sera abandonné par lui. Non, c'est bon, c'est lui, c'est L majuscule, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il sera alors attaqué par Satan, possédé par lui, précipité dans tous les crimes, puis rejeté dans l'abîme. C'est-à-dire que si notre Seigneur Jésus-Christ est dans mon âme, le démon ne peut rien faire. Alors là, il y a une belle comparaison des pères. Judas, d'apôtre qu'il était, devint un démon. Comme Lucifer, qui était le plus beau des anges, devient le plus noir des mauvais esprits. Comme le plus aigre des vinaigres provient du vin le plus doux. Et comme le moine Luther devint grand hérétique. On voit comment certains des grands ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ étaient des grands amis de notre Seigneur Jésus-Christ pendant un temps. Lucifer, le mot Lucifer, lux ferre en latin, c'est le porteur de la lumière. C'est le plus bel ange du ciel. C'était un chérubin ou un séraphin. Un ange d'une beauté extraordinaire, et il est devenu le plus noir de tous les anges parce qu'il a quitté notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. J'aime beaucoup cette comparaison, de même que Lucifer, qui était le plus bel ange, devient le plus laid de tous les anges. De même, le vinaigre est plus aigre s'il vient d'un vin qui est plus cher, qui est plus doux. Donc, la corruption du meilleur est toujours la pire. Plus je tombe de haut, plus je me fais mal. Donc la corruption d'un très bon vin entraîne une corruption beaucoup plus importante que la corruption d'un vin qui est un vin de bas de gamme. Voyez? Donc la corruption d'une âme qui est consacrée à Dieu, une âme de prêtre par exemple, entraîne des conséquences bien plus graves que la corruption d'une âme de quelqu'un qui n'est pas très élevé dans la hiérarchie. La corruption d'un pape par exemple entraîne des catastrophes bien plus graves que la corruption d'un simple prêtre. La corruption d'un prêtre, de l'âme d'un prêtre, entraîne des conséquences bien plus graves que la corruption d'un laïc. La corruption d'un père de famille entraîne des conséquences sérieuses pour toute la famille, justement parce qu'il a plus de responsabilités. Il faut bien méditer cette phrase des pères, mes bien chers frères. Comme Lucifer, qui était le plus beau des anges, devint le plus noir des esprits, Judas, d'apôtre qu'il était, devint un démon. Il était nuit. Donc les pères insistent sur ce. Verset 30. Judas, pardon, ayant donc pris cette bouchée, sortit aussitôt, et il était nuit. Judas sortit comme fils des ténèbres, pour faire les œuvres des ténèbres. Cela représente la noirceur de l'âme de Judas, ainsi que l'impénitence et la condamnation à la noirceur de l'enfer où se précipitait Judas. Et Saint Grégoire fait remarquer que Judas ne devait jamais revenir. Cette nuit même, votre âme vous sera demandée. Oui, on peut s'étonner, beaucoup de fidèles s'étonnent, mais pourquoi est-ce que Judas n'est pas revenu? Si le bon Dieu a permis que tous les apôtres qui s'étaient sauvés tous, s'étaient tous enfuis au soir du jeudi saint, ils sont tous revenus, pourquoi Judas n'est pas revenu? Ça, c'est un mystère, hein? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ respecte notre volonté propre. Alors, notre Seigneur va. Donc, il n'y a pas tout dans cet évangile de Saint Jean. Encore une fois, Saint Jean complète les autres évangiles. N'oubliez pas que l'évangile de Saint Jean est à part des autres. Il y a les synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Et puis, il y a Saint Jean qui est à part. Donc, Saint Jean ne répète pas des choses qui ont déjà été expliquées par les autres évangélistes. C'est pour ça qu'il n'y a rien ici dans l'évangile de Saint Jean, je crois, il n'y a rien sur la Sainte Eucharistie, parce que ça a déjà été traité dans les autres évangiles. Et ici, j'ai trouvé une bonne remarque des pères. C'est une chose remarquable que le premier schisme qui se fait parmi les disciples du Sauveur se produit à propos de la Sainte Eucharistie. N'est-ce pas une prophétie des terribles défections qui devraient se produire plus tard et qui auraient ce grand mystère pour principal champ de bataille? On va voir évidemment que là, beaucoup de disciples ont quitté notre Seigneur. On a vu que beaucoup de disciples ont quitté notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a commencé à expliquer qu'il allait leur donner son corps, son sang en nourriture. Et donc, il y a toujours eu dans l'histoire de l'Église, on voit surtout au début de l'histoire de l'Église, puis après encore avec les hérésies de Béranger, on voit très bien, au Xe siècle, on voit très bien comment le démon n'a eu de cesse d'essayer de détruire la foi en la Sainte Eucharistie. Aujourd'hui, c'est clair et net. Pourquoi est-ce que vous croyez que dans l'Église moderne, ils ont détruit la nouvelle messe, la messe traditionnelle en 69? Pourquoi ils ont détruit le sacerdoce et l'épiscopat en 68? C'est tout simplement pour pouvoir attaquer la Sainte Eucharistie. Parce que quand on détruit le sacerdoce et qu'on détruit l'épiscopat, on détruit l'épiscopat, on détruit les prêtres. Si on détruit les prêtres, on détruit la messe. Et si on détruit la messe, on détruit la Sainte Eucharistie. Donc il faut réfléchir à tout ça. Ayant mangé l'agneau, comment pourrions-nous devenir des loups? C'est un grand mal d'être aveugle. Mais être aveugle, ce n'est pas prendre de guide et s'imposer soi-même comme guide, c'est plus qu'un mal, c'est un double et même un triple crime. Donc le pire des crimes, c'est de compter sur ses propres forces. Donc la prière est plus, c'est la conclusion des pères, la prière est plus nécessaire que jamais. Il faut se purifier. Si quelqu'un venait se jeter à vos pieds et le toucher avec des mains souillées de boue, vous le repousseriez du pied. C'est par votre bouche que dans la prière vous touchez les pieds de Dieu. Ne la salissez donc pas. N'oublions pas que par la communion, nous recevons le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors soyons pas comme Judas. Notre Seigneur Jésus-Christ a accepté de donner la communion à Judas, en sachant très bien que Judas pourtant faisait une communion sacrilège. De la même façon, si je me présente à la Sainte Table en état de péché mortel, le prêtre va me donner la communion. Parce qu'il ne peut pas deviner que je ne le suis pas. Et puis souvent, il le sait par le secret de la confession. Si un prêtre refuse l'absolution à quelqu'un juste avant la messe et que cette personne assiste à la Sainte Messe, alors que le prêtre vient lui refuser l'absolution juste avant la messe, et que cette personne, au moment de la communion de la messe, à laquelle il est assis, cette personne vient communier, le prêtre est obligé de lui donner la communion. Pourtant, il sait qu'il lui a refusé l'absolution quelques minutes avant la messe. Mais il est obligé de le communier parce qu'il ne peut pas révéler ce qu'il sait par le mystère, par le secret de confession. S'il refusait publiquement la communion à cette personne qui vient s'agenouiller au banc de communion parce que le prêtre sait très bien qu'il lui a refusé l'absolution juste avant la messe, il violerait le secret de confession, il y aurait une peine d'excommunication pour le prêtre. C'est même pire que ça, il faut bien comprendre ça. Hein. Si je refuse l'absolution à quelqu'un, que la personne quitte le confessionnal, mais dans la même pièce où il y a le confessionnal, je viens de refuser l'absolution à cette personne parce qu'il n'a pas de regret de ses péchés ou qu'il garde une occasion prochaine volontaire de pécher. Il quitte le confessionnal et dans le confessionnal, dans la même pièce, il me dit, Monsieur l'abbé, je souhaiterais communier. Pendant la semaine, par exemple, eh bien, je suis obligé de donner la communion à cette personne. J'ai pas à lui dire, dis donc, je viens de vous refuser l'absolution, vous pouvez pas communier. Parce que si je lui disais, je viens de vous refuser l'absolution, comme la confession est terminée, ça serait déjà un viol du secret de confession. Je peux rien dire. C'est terrible pour le prêtre, mais c'est comme ça. C'est donc par votre bouche que dans la prière, vous touchez les pieds de Dieu. Ne la salissez donc pas. Attention à garder pur cette langue qui touche le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut y penser avant d'être tenté de raconter des gaudrioles sur le prochain avec la langue. On avance. Versets 31 et 32, page 24 en bas de la page. Lorsqu'il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même. Et c'est bientôt qu'il le glorifiera. » On retrouve cette phrase étrange, cette locution étrange, le Fils de l'homme. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de l'homme et Fils de Dieu à la fois. Fils de Dieu par sa divinité, Fils de l'homme par son humanité, dans la même personne. Unité de personne, dualité de nature. Un grand mystère. Il ne veut pas laisser ignorer le temps de cette glorification. Et bientôt, il le glorifiera. C'est-à-dire qu'au moment où Judas sort pour le trahir, Jésus prédit la gloire qui doit lui procurer bientôt sa résurrection. Que doit lui procurer bientôt sa résurrection après sa passion ? Il réserve pour un temps plus éloigné la gloire par laquelle Dieu devait le glorifier en lui-même, en faisant éclater aux yeux de tous la puissance de sa résurrection. Tandis que lui-même devait rester en Dieu en vertu de cette mystérieuse disposition qui le soumet à son Père. Donc on voit pendant la passion que notre Seigneur en quelque sorte cache sa divinité qui va rééclater au moment de la résurrection, le jour de Pâques. Mais dans le sens figuré, la gloire de Dieu apparut parce que l'intelligence déifiée et s'élevant au-dessus de toutes les choses matérielles pour scruter la vision de Dieu participe à l'éclat de la divinité qu'elle contemple. Et c'est dans ce sens que le visage de Moïse resplendit de gloire, parce que son intelligence fut comme déifiée. Or, on ne peut établir aucune comparaison entre la prééminence divine de Jésus-Christ et l'éclat qui rejaillissait de l'intelligence de Moïse sur son visage. Car le Fils est la splendeur de toute la gloire divine, au témoignage de saint Paul, et comme il est la splendeur de sa gloire et l'image de sa substance. Vous voyez, quand saint Moïse, lorsqu'il est redescendu de la montagne, après avoir vu Dieu, avait deux cornes en quelque sorte de lumière, son visage était irradié par la vision divine. Et pourtant, il n'était pas Dieu. Imaginez l'irradiation qu'il devait y avoir sur le visage de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu, ce n'est pas simplement une contemplation de Dieu, il est Dieu lui-même. Un grand mystère. Nous avançons, versets 33, 34 et 35, page 25. Mes petits-enfants, je ne suis plus que pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous pouvez venir, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Que vous aimiez les uns les autres. Que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est en ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous donne ce commandement qui résume tous les autres. Que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et aimez le prochain comme vous-même pour l'amour de Dieu. Donc c'est pas simplement s'aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment notre Seigneur Jésus-Christ nous a-t-il aimé? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a aimés en mourant pour nous sur la croix. C'est ça qui est très important, c'est pas simplement l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain par amour de Dieu. Donc ce commandement veut dire qu'il faut que je m'aime moi-même dans l'amour de Dieu, que j'aime mon prochain pour l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois aider mon prochain à vivre en état de grâce pour qu'il puisse aller au ciel. L'amour de Dieu, c'est ça. Si j'aime Dieu, je vais aimer mon prochain, et aimant mon prochain, je vais aider mon prochain à monter vers Dieu. Les apôtres étaient encore petits dans leur foi et leur amour pour le Christ, car ils ne deviendront des adultes qu'après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Je m'excuse, là il y a un texte qu'il faut que je supprime. Il y a un texte en anglais que j'ai oublié d'enlever. Quand j'ai fait ce polycopie il y a des années, j'avais pas tous les textes en français, j'avais beaucoup de textes en anglais aussi, et j'ai dû traduire certains textes, et là j'ai oublié d'enlever une traduction du français. En fait, cette phrase, les apôtres étaient encore petits dans leur foi et leur amour pour le Christ, car ils ne deviendront des adultes qu'après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est la traduction du texte qui est deux lignes plus loin, qui est en anglais, là. Donc, ce texte en anglais, je vais le supprimer, évidemment, dans le nouveau polycopier. Et je le supprimais complètement parce qu'en fait il est déjà traduit, mais j'ai oublié d'enlever la partie en anglais. Donc tous les saints sont des petits-enfants en relation avec le Christ. Ce nom de petits-enfants, oui, c'est le verset 33, mes petits-enfants, c'est vraiment très beau comme expression. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc les apôtres parlent, notre Seigneur Jésus-Christ parle à ses apôtres, il s'adresse à eux, mes petits-enfants. Ce nom de petits-enfants qu'il leur donne prouve que leur âme était encore soumise aux faiblesses de l'enfance. Mais ceux qu'il appelle maintenant des petits-enfants deviennent ses frères après sa résurrection, de même qu'ils avaient été des serviteurs avant de devenir des petits-enfants. Donc ils étaient des serviteurs, ils deviennent des petits-enfants et ils vont devenir ses amis. Je ne vous appelle plus servant, je vous appelle ami. Donc chercher Jésus, c'est chercher le Verbe, la sagesse, la justice, la vérité, la puissance divine, toutes choses qui se trouvent dans le Christ. Il voulait donc suivre Jésus, non pas corporellement comme quelques ignorants le prétendent, mais dans le sens spirituel dont parle le Sauveur quand il dit « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple ». Donc il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut aussi qu'on accepte de devenir des petits-enfants. Un petit enfant, il obéit à sa mère sans discuter. La mère donne un ordre, le petit enfant obéit. Donc on voit très bien les différentes étapes. Quand on s'approche de notre Seigneur, d'abord on s'approche comme esclave, puis on devient petit enfant, puis on devient ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais terminer ce... Je garde un peu plus longtemps cette conférence. Je voudrais terminer ce chapitre 13 avec les versets 36 à 38. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où allez-vous ? » Et Jésus répondit, « Là où je vais, vous ne pouvez me suivre maintenant, mais vous me suivrez plus tard. » Pierre lui dit, « Pourquoi ne pourrais-je pas vous suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour vous. » Jésus lui répondit, « Vous donnerez votre vie pour moi. En vérité, je vous le dis, le coq ne chantera pas avant que vous ne m'ayez renié trois fois. » Quel terrible coup de massue pour Saint-Pierre. Il faut vraiment méditer là-dessus, comme si renier Jésus en tant qu'homme ne soit pas le renier comme Christ, et le renier dans ce qu'il a daigné se faire pour notre amour et pour nous sauver de la mort, nous ses créatures. Comment est-il devenu la tête de l'Église si ce n'est par son humanité? Et comment donc peut-on faire partie du corps de Jésus-Christ en reniant Jésus-Christ comme homme? Donc si je renie notre Seigneur Jésus-Christ comme homme, je renie notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, attention, parce qu'il est Dieu et homme en même temps dans la même personne. On finit avec ces dernières phrases à la page 26. Saint Bède le Vénérable, que chacun cependant profite de cet exemple pour ne point se laisser aller au désespoir lorsqu'il tombe dans quelque faute et qu'il lui puisse d'espérance assurée d'obtenir son pardon. Donc malgré cette phrase orgueilleuse de notre Seigneur Jésus, de Saint Pierre, devant notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur va pardonner à Saint Pierre. Si notre Seigneur Jésus-Christ pardonne à Saint-Pierre, ben il va bien sûr pardonner aussi à chacun d'entre nous si on demande pardon avec humilité. Notre Seigneur ne refusant jamais sa grâce, qu'il lui demande avec humilité. Nous devons ainsi conclure de là que le Seigneur permit la chute de Pierre. Il aurait pu sans doute la prévenir tout d'abord, mais comme cet apôtre persévérait dans ses protestations opiniâtres, le Sauveur ne le poussa point à le renier, mais il l'abandonna à ses propres forces pour lui faire comprendre sa propre faiblesse, le préserver pour l'avenir d'une si déplorable chute lorsqu'il serait chargé du gouvernement du monde entier et lui donner la connaissance de lui-même par le souvenir de sa faiblesse. Et Saint-Pierre va passer sa vie à faire pénitence pour cette faute. Il va trahir trois fois notre Seigneur. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu en arrière. Notre Seigneur aurait pu lui dire, j'avais prévu de faire de toi le premier pape, mais puisque tu m'as trahi trois fois, je change d'idée, je prends quelqu'un d'autre. Non. Notre Seigneur va pardonner parce qu'il a vu le regret de Saint-Pierre. Donc Pierre a fait le serment téméraire de mourir pour son maître ou avec son maître, et qu'ainsi il a renouvelé trois fois cet engagement en divers endroits du discours du Sauveur, de même que Jésus lui a répondu à trois reprises différentes qu'il le renierait trois fois avant le chant du coq. Et vous savez que notre Seigneur, après sa résurrection, trois fois va demander un acte d'amour à Saint-Pierre pour lui faire rattraper cette triple trahison. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Seigneur, vous savez que je vous aime. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Et trois fois, notre Seigneur va répéter la même phrase, quitte à attrister Saint-Pierre qui ne comprend pas au début. Simon, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Simon, est-ce que tu m'aimes vraiment plus que les autres? Et Simon de répondre non pas, oui Seigneur, je vous aime plus que les autres. Seigneur, je vous aime, il a pris l'humilité. Et cette chute qui est annoncée ici, le coq ne chantera pas avant que vous ne m'ayez renié trois fois. Cette chute de Saint-Pierre est un, est une leçon pour chacun d'entre nous. Si Saint-Pierre est tombé, alors mes bien chers frères, tout le monde peut tomber. Hein. Saint-Pierre, le chef de l'Église, le premier pape, est tombé. Donc je peux au moins aussi tomber sans la grâce du bon Dieu. Regardez ce qui s'est passé quand Saint-Pierre est tombé dans l'orgueil. Il est tombé très bas, il s'est relevé. Donc moi aussi, qui tombe dans l'orgueil encore plus souvent que Saint-Pierre, ben, je peux tomber encore plus bas que lui, parce que je suis encore bien plus misérable que lui, mais je peux aussi être pardonné. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ a pardonné à Saint-Pierre, il peut pardonner à chacun d'entre nous. Voilà, nous allons arrêter là. Donc, j'ai terminé le chapitre 13. Si Dieu veut, la prochaine fois, nous continuerons avec le chapitre 14. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.